Chapitre 4. Eureka, l'attraction, la voyante. Cette fois, soit que la gasconnade parut trop forte au baron, soit qu'il ne l'eût pas entendu, soit enfin que, l'ayant entendu, il ne fut point fâché de débarrasser la maison de son hôte étrange, il suivit des yeux André jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Puis, lorsque le bruit de son clavecin lui eut prouvé qu'elle était occupée dans la chambre voisine, il offrit à Balsamo de le faire conduire à la ville prochaine. « J'ai, dit-il, un mauvais cheval qui en crèvera peut-être, mais enfin qui arrivera, et vous serez sûr au moins d'être couché convenablement. Ce n'est pas qu'il manque d'une chambre et d'un lit à taverner, mais j'entends l'hospitalité à ma façon. Bien ou rien, c'est ma devise. »« Alors, vous me renvoyez, » dit Balsamo, en cachant dans un soupir la contrariété qu'il éprouvait. « C'est me traiter en importun. » « Non, par Dieu, c'est vous traiter en ami, mon cher hôte. Vous loger ici, au contraire, serait vous vouloir du mal. C'est à mon grand regret que je vous dis cela, et pour l'acquis de ma conscience, car en vérité, vous me plaisez fort. Alors, si je vous plais, ne me forcez pas à me lever quand je suis là, à courir à cheval quand je pourrais étendre mes bras et dégourdir mes jambes dans un lit. N'exagérez pas votre médiocrité. » « Enfin, si vous ne voulez pas que je croie à un mauvais vouloir qui me serait personnel. »« Oh, s'il en est ainsi, dit le baron, vous coucherez au château. » Puis, cherchant l'abri des yeux et l'apercevant dans un coin, « Avance ici, vieux scélérat !» lui cria-t-il. L'abri fit timidement quelques pas. « Avance donc, ventre bleu. Voyons, penses-tu que la chambre rouge soit présentable ?» Certes oui, monsieur, répondit le vieux serviteur, puisque c'est celle de monsieur Philippe quand il vient à taverner. Elle est peut-être fort bien pour un pauvre diable de lieutenant qui vient passer 3 mois chez un père ruiné, et fort mal pour un riche seigneur qui court la poste à 4 chevaux. Je vous assure, monsieur le baron, dit Balsamo, qu'elle sera parfaite. Le baron fit une grimace qui voulait dire « C'est bon, je sais ce qu'il en est ». Puis, tout haut, « Donne donc la chambre rouge à monsieur, » continua-t-il, « puisque monsieur veut absolument être guéri de l'envie de revenir à taverner. Ainsi, vous tenez à coucher ici. »« Mais oui. Cependant, attendez donc, il y aurait un moyen. »« À quoi ? À ce que vous ne fissiez pas la route à cheval. »« Quelle route ? La route qui mène d'ici à Bar-le-Duc. » Balsamo attendit le développement de la proposition. « Ce sont des chevaux de poste qui ont amené votre voiture ici. »« Mais sans doute, à moins que ce ne soit Satan. »« J'ai pensé d'abord que cela pouvait être, car je ne vous crois pas trop mal avec lui. »« Vous me faites infiniment plus d'honneur que je n'en mérite. »« Eh bien, les chevaux qui ont amené votre voiture peuvent la ramener. » Non pas, car il n'en reste que 2 sur 4. La voiture est lourde et les chevaux de poste doivent dormir. » Encore une raison, décidément vous tenez à coucher ici. Ben, j'y tiens aujourd'hui, pour vous revoir demain, je veux vous témoigner ma reconnaissance. Vous avez un moyen tout simple pour cela. Lequel ? Mais puisque vous êtes si bien avec le diable, priez-le donc de me faire trouver la pierre philosophale. Monsieur le baron, si vous y tenez beaucoup. La pierre philosophale, par Dieu, si j'y tiendrai. Il faudrait alors vous adresser à une personne qui n'est pas le diable. Et quelle est cette personne ? Moi, comme dit Corneille dans je ne sais plus quelle comédie qu'elle me récitait il y a juste 100 ans en passant sur le pont Neuf à Paris. « L'abri, vieux coquin !» s'écria le comte, qui commençait à trouver la conversation dangereuse à une pareille heure et avec un pareil homme. « Tâchez de trouver une bougie et d'éclairer monsieur !» L'abri se hâta d'obéir, et tout en faisant cette recherche, presque aussi chanceuse que la pierre philosophale, il appela Nicole pour qu'elle montât la première et donna de l'air à la chambre rouge. Nicole laissa André seul, ou plutôt André fut enchanté de trouver cette occasion de congédier sa chambrière. Elle avait besoin de demeurer avec sa pensée. Le baron souhaita le bonsoir à Balsamo et alla se coucher. Balsamo tira sa montre, car il se rappelait la promesse qu'il avait faite à Altotas. Il y avait 2h30 déjà, au lieu de 2 heures, que le savant dormait. C'était 30 minutes perdues. Il demanda donc à l'abri si le carrosse était toujours au même endroit. L'abri répondit qu'à moins qu'il n'eût marché tout seul, il devait y être. Balsamo s'informa alors de ce qu'était devenu Gilbert. L'abri assura que Gilbert était un fainéant qui devait être couché depuis une heure au moins. Balsamo sortit pour réveiller Altotas après avoir étudié la topographie du chemin qui conduisait à la chambre rouge. Monsieur de Tavernet n'avait point menti relativement à la médiocrité de cette chambre. L'ameublement répondait à celui des autres pièces du château. Un lit de chêne, dont la couverture était de vieux damas vert jauni, comme les tentures à festons, une table de chêne à pieds tordus, une grande cheminée de pierre qui datait du temps de Louis XIII et à qui le feu pouvait donner une certaine somptuosité l'hiver, mais à qui l'absence du feu donnait un aspect des plus tristes en été. Vide de chenets, vide d'ustensiles à feu, vide de bois, mais pleine en échange de vieilles gazettes, tel était le mobilier dont Balsamo allait, pour une nuit, se trouver le repropriétaire. Nous y joindrons deux chaises et une armoire de bois, mais peinte en gris, avec des panneaux creusés. Pendant que l'abri essayait de mettre un peu d'ordre dans cette chambre aérée par Nicole, qui s'était retirée chez elle, cette opération faite, Balsamo, après avoir réveillé Altotas, rentrait dans la maison. Arrivé en face de la porte d'André, il s'arrêta pour écouter. Au moment où André avait quitté la salle de souper, elle s'était aperçue qu'elle échappait à cette mystérieuse influence que le voyageur exerçait sur elle, et pour combattre jusqu'à ses pensées, elle s'était mise à son clavecin. Les sons arrivaient jusqu'à Balsamo à travers la porte fermée. Balsamo, comme nous l'avons dit, s'était arrêté devant cette porte. Au bout d'un instant, il fit quelques gestes arrondis qu'on eût pu prendre pour une espèce de conjuration, et qui en était une sans doute, puisque, frappé d'une nouvelle sensation pareille à celle qu'elle avait déjà éprouvée, André cessa lentement de jouer son air, laissa ses mains retomber immobiles à ses côtés, et se retourna vers la porte d'un mouvement lent et roide, pareil à celui d'une personne qui obéit à une influence étrangère et accomplit des choses qui ne lui sont pas commandées par son libre arbitre. Balsamo sourit dans l'ombre comme s'il eût pu voir à travers cette porte fermée. C'était sans doute ce que désirait Balsamo, et il avait deviné que ce désir était accompli, car ayant étendu la main gauche et trouvé sous cette main la rampe, il monta l'escalier roide et massif qui conduisait à la chambre rouge. À mesure qu'il s'éloignait, André, du même mouvement, lent et roide, se détournait de la porte et revenait à son clavecin. En atteignant la dernière marche de l'escalier, Balsamo put entendre les premières notes de la reprise de l'air interrompu. Balsamo entra dans la chambre rouge et congédia l'abri. L'abri était visiblement un bon serviteur, habitué à obéir sur un signe. Cependant, après avoir fait un mouvement vers la porte, il s'arrêta. « Eh bien ?» demanda Balsamo. L'abri glissa sa main dans la poche de sa veste, parut palper quelque chose au plus profond de cette poche muette, mais ne répondit pas. « Avez-vous quelque chose à me dire, mon ami ?» demanda Balsamo en s'approchant de lui. L'abri parut faire un violent effort sur lui-même et, tirant sa main de sa poche, « Je veux dire, monsieur, que vous êtes sans doute trompé ce soir, » répondit-il. « Moi ?» fit Balsamo. « Et en quoi donc, mon ami ?» En ce que vous avez cru me donner une pièce de 24 sous et que vous m'avez donné une pièce de 24 livres. » Et il ouvrit sa main, qui laissa voir un louis neuf et éclatant. Balsamo regarda le vieux serviteur avec un sentiment d'admiration qui semblait indiquer qu'il n'avait pas d'ordinaire pour les hommes une grande considération à l'endroit de la probité. « Hand honest, » dit-il, comme Hamlet. Et fouillant à son tour dans sa poche, il mit un second louis à côté du premier. La joie de l'abri à la vue de cette splendide générosité ne saurait se concevoir. Il y avait 20 ans au moins qu'il n'avait vu d'or. Il fallut pour qu'il se croie l'heureux propriétaire d'un pareil trésor que Balsamo le lui prit dans la main et le lui glissa lui-même dans la poche. Il salua jusqu'à terre et se retirait à reculons lorsque Balsamo l'arrêta. Quelles sont le matin les habitudes du château ? Demanda-t-il. Monsieur de Tavernet reste tard au lit, monsieur, mais Mademoiselle André se lève toujours de bonne heure. À quelle heure ? Mais vers les 6 heures. et qui couche au-dessus de cette chambre, moi, monsieur. Et au-dessous, personne, c'est le vestibule qui donne sous cette chambre. Bien, merci, mon ami, laissez-moi maintenant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. À propos, veillez à ce que ma voiture soit en sûreté. Oh, monsieur, peut-être tranquille. Si vous y entendiez quelque bruit ou si vous y aperceviez de la lumière, ne vous effrayez pas. Elle est habitée par un vieux serviteur impotent que je mène avec moi et qui habite le fond du carrosse. Recommandez à Monsieur Gilbert de ne pas le troubler. Dites-lui aussi, je vous prie, qu'il ne s'éloigne pas demain matin avant que je lui ai parlé. Retiendrez-vous bien tout cela, mon ami ? Oh oui, certes, mais monsieur nous quitterait-il si tôt ? C'est selon, dit Balsamo avec un sourire. Cependant, pour bien faire, il faudrait que je fusse à Bar-le-Duc demain soir. Labri poussa un soupir de résignation, jeta un dernier coup d'œil au lit et approcha la bougie du foyer pour donner un peu de chaleur à cette grande chambre humide en brûlant tous les papiers à défaut de bois. Mais Balsamo l'arrêta. « Non, dit-il, laissez tous ces vieux journaux où ils sont. Si je ne dors pas, je m'amuserai à les lire. » Labri s'inclina et sortit. Balsamo s'approcha de la porte, écouta les pas du vieux serviteur qui faisait à leur tour craquer l'escalier. Bientôt les pas retentirent au-dessus de sa tête. Labri était rentré chez lui. Alors le baron alla à la fenêtre. En face de sa fenêtre, à l'autre aile du pavillon, une petite mansarde aux rideaux mal fermés était éclairée. C'était celle de Leguet. La jeune fille détachait lentement sa robe et son fichu. Seulement, elle ouvrait sa fenêtre et se penchait au dehors pour voir dans la cour. Balsamo la regardait avec une attention qu'il n'avait sans doute pas voulu lui accorder au souper. « Étrange ressemblance, » murmura-t-il. En ce moment, la lumière de la mansarde s'éteignit, quoique celle qu'il habitait ne fût point couchée. Balsamo demeura appuyé à la muraille. Le clavecin retentissait toujours. Le baron parut écouter si aucun autre bruit ne se mêlait à celui de l'instrument, puis lorsqu'il se fut assuré que l'harmonie veillait seule au milieu du silence général, il rouvrit sa porte, fermée par Labri, descendit l'escalier avec précaution et poussa doucement la porte du salon qui tourna sans bruit sur ses gonds usés. André n'entendit rien. Elle promenait ses belles mains d'un blanc mat sur l'ivoire jauni de l'instrument. En face d'elle était une glace incrustée dans un parquet sculpté dont la dorure écaillée avait disparu sous une couche de couleur grise. L'air que jouait la jeune fille était mélancolique. Au reste, c'était plutôt de simples accords qu'un air. Elle improvisait, sans doute, et repassait sur le clavecin les souvenirs de sa pensée ou les rêves de son imagination. Peut-être son esprit, si attristé par le séjour de Tavernet, quittait-il momentanément le château pour aller se perdre dans les immenses et sombres jardins de l'Annonciade de Nancy, tout peuplé de joyeuses pensionnaires. Quoi qu'il en fût, pour le moment, son regard vague et à demi voilé se perdait dans le sombre miroir placé devant elle et qui reflétait les ténèbres que ne pouvait aller combattre au fond de cette grande pièce la lumière de la seule bougie qui, placée sur le clavecin, éclairait la musicienne. Parfois, elle s'arrêtait tout à coup. C'est qu'alors elle se rappelait l'étrange vision de la soirée et les impressions inconnues qui en avaient été la suite. Or, avant que sa pensée eût rien précisé à cet égard, le cœur avait déjà battu et le frisson avait parcouru ses membres. Elle tressaillait, comme si, tout isolée qu'elle était alors, le contact d'un être animé fût venu l'effleurer et la troubler en l'effleurant. Tout à coup, comme elle cherchait à se rendre compte de ces impressions bizarres, elle les éprouva de nouveau. Toute sa personne frissonna comme secouée d'une commotion électrique. Ses regards prirent de la netteté, sa pensée se solidifia, pour ainsi dire, et elle aperçut comme un mouvement dans la glace. C'était la porte du salon qui s'ouvrait sans bruit. Derrière cette porte apparut une ombre. André frémit et ses doigts s'égarèrent sur les touches. Rien n'était plus naturel, cependant, que cette apparition. Cette ombre, qu'il était impossible de reconnaître, encore plongée dans les ténèbres qu'elle était, ne pouvait être que celle de Monsieur de Tavernet ou celle de Nicole. Labri, avant de se coucher, n'avait-il pas à rôder par les appartements et à entrer au salon pour quelques besognes? La chose lui arrivait fréquemment, et dans ces sortes de tournées, le discret et fidèle serviteur ne faisait jamais de bruit. Mais la jeune fille voyait avec les yeux de l'âme que ce n'était ni l'une ni l'autre de ces trois personnes. L'ombre s'approcha d'un pas muet, se faisant de plus en plus distincte au milieu des ténèbres. Lorsque l'apparition fut entrée dans le cercle qu'embrassait la lumière, André reconnut l'étranger si effrayant, avec son visage pâle et sa redingote de velours noir. Il avait sans doute pour quelque mystérieux motif quitté l'habit de soie qu'il portait. Elle voulut se retourner, crier, mais Balsamo étendit ses bras en avant et elle ne bougea plus. Elle fit un effort. « Monsieur, dit-elle, monsieur, au nom du ciel, que voulez-vous ? » Balsamo sourit, la glace répéta cette expression de sa physionomie et André l'absorba avidement, mais il ne répondit pas. André tenta encore une fois de se lever, mais elle ne put y parvenir. Une force invincible, un engourdissement qui n'était point sans charme, la clouèrent sur son fauteuil, tandis que son regard restait rivé sur le miroir magique. Cette sensation nouvelle l'épouvanta, car elle se sentait entièrement à la discrétion de cet homme, et cet homme était un inconnu. Elle fit pour appeler au secours un effort surhumain, sa bouche s'ouvrit, mais Balsamo étendit ses deux mains au-dessus de la tête de la jeune fille et aucun son ne sortit de sa bouche. André resta muette, sa poitrine s'emplit d'une sorte de chaleur stupéfiante qui monta jusqu'à son cerveau, se déroulant comme une vapeur aux tourbillons envahissants. La jeune fille n'avait plus ni force ni volonté. Elle laissa retomber sa tête sur son épaule. À ce moment, il sembla à Balsamo entendre un léger bruit du côté de la fenêtre. Il se retourna vivement et crut voir extérieurement s'éloigner de la vitre le visage d'un homme. Il fronça le sourcil et, chose étrange, la même impression sembla se refléter sur le visage de la jeune fille. Alors, se retournant du côté d'André, il abaissa les deux mains qu'il avait constamment tenues élevées au-dessus de sa tête, les releva d'un geste onctueux, les abaissa encore, et, persévérant pendant quelques secondes à entasser sur la jeune fille des colonnes écrasantes d'électricité, « Dormez, » dit-il. Puis, comme elle se débattait encore sur le charme, « Dormez, » répéta-t-il avec l'accent de la domination, « Dormez, je le veux. » Dès lors, tout céda à cette puissante volonté. André appuya le coude sur le clavecin, posa la tête sur sa main et s'endormit. Puis Balsamo sortit à reculons, tira la porte après lui, et l'on put l'entendre remonter l'escalier de bois et regagner sa chambre. Aussitôt que la porte du salon se fut refermée derrière lui, la figure qu'avait cru entrevoir Balsamo reparut aux vitres, c'était celle de Gilbert. Gilbert, exclu du salon par l'infériorité de sa position au château de Tavernet, avait surveillé toute la soirée les personnages à qui leur rang permettait d'y figurer. Pendant tout le souper, il avait vu Balsamo sourire et gesticuler, il avait remarqué l'attention dont l'honorait André, l'affabilité inouïe du baron à son égard, l'empressement respectueux de l'abri. Plus tard, lorsqu'on s'était levé de table, il s'était caché dans un massif de lilas et de boules de neige, dans la crainte que Nicole, en fermant les volets et en regagnant sa chambre, ne l'aperçût et ne le dérangeât dans son investigation, ou plutôt dans son espionnage. Nicole avait en effet opéré sa ronde, mais elle avait dû laisser ouvert un des volets du salon dont les charnières, à moitié descellées, ne permettaient pas au contrevent de rouler sur leur gond. Gilbert connaissait bien cette circonstance, aussi n'avait-il pas, comme nous l'avons vu, quitté son poste, sûr qu'il était de continuer ses observations quand le guet serait parti. Ses observations, avons-nous dit. Ce mot peut-être semblera bien vague au lecteur. Quelles observations Gilbert pouvait-il faire? Ne connaissait-il pas le château de Tavernet dans tous ses détails, puisqu'il y avait été élevé, les personnages qu'il habitait sous toutes leurs faces, puisque depuis 17 ou 18 ans, il les voyait tous les jours? C'est que ce soir-là, Gilbert avait d'autres desseins que d'observer. Il ne guettait pas seulement, il attendait. Quand Nicole eut quitté le salon en y laissant André, quand, après avoir lentement et négligemment fermé les portes et les volets, elle se fut promenée dans le parterre comme si elle y eût attendu quelqu'un, quand elle l'eut plongé de tous côtés de furtifs regards, Quand elle eut fait enfin ce que venait de faire et allait encore faire Gilbert, elle se décida à la retraite et regagna sa chambre. Gilbert, comme on le comprend bien, immobile contre le tronc d'un arbre à moitié courbé, respirant à peine, n'avait pas perdu un des mouvements, pas perdu un des gestes de Nicole. Puis, lorsqu'elle eut disparu, lorsqu'il eut vu s'illuminer la fenêtre des mansardes, il traversa l'espace vide sur la pointe des pieds, parvint jusqu'à la fenêtre, s'y accroupit dans l'ombre et attendit, sans savoir peut-être ce qu'il attendait, dévorant des yeux André, nonchalamment assise à son clavecin. Ce fut à ce moment que Joseph Balsamo entra dans le salon. Gilbert tressaillit à cette vue et son regard ardent se concentra sur les deux personnages de la scène que nous venons de raconter. Il crut voir que Balsamo complimentait André sur son talent, que celle-ci lui répondait avec sa froideur accoutumée, qu'il insistait avec un sourire, qu'elle suspendait son étude pour répondre et congédier son hôte. Il admira la grâce avec laquelle celui-ci se retirait. De toute la scène qu'il avait cru comprendre, il n'avait absolument rien compris, car la réalité de cette scène était le silence. Gilbert n'avait rien pu entendre, il avait seulement vu remuer des lèvres et s'agiter des bras. Comment, si bon observateur qu'il fût, eût-il reconnu un mystère là où tout se passait naturellement en apparence? Balsamo parti, Gilbert demeura non plus en observation, mais en contemplation devant André, si belle dans sa pose nonchalante, et puis bientôt il s'aperçut avec étonnement qu'elle dormait. Il demeura encore quelques minutes dans la même attitude pour s'assurer bien positivement que cette immobilité était bien celle du sommeil. Puis, lorsqu'il en fut bien convaincu, il se leva, tenant sa tête à deux mains, comme un homme qui craint que son cerveau n'éclate sous le flot des pensées qui y affluent. Puis, dans un moment de volonté qui ressemblait à un élan de fureur, « Oh, sa main, dit-il, approchez seulement mes lèvres de sa main !» « Allons, Gilbert, allons, je le veux. » Il dit cela, s'obéissant à lui-même, il s'élança dans l'antichambre et atteignit la porte du salon qui s'ouvrit sans bruit pour lui, comme elle l'avait fait pour Balsamo. Mais à peine cette porte fut-elle ouverte, à peine se trouva-t-il en face de la jeune fille, sans que rien ne les séparât plus, qu'il comprit l'importance de l'action qu'il allait commettre. Lui, Gilbert, lui, le fils d'un métayer et d'une paysanne, lui, le jeune homme timide, sinon respectueux, qui, à peine du fond de son obscurité, avait osé lever les yeux sur la fière et dédaigneuse jeune fille, il allait toucher de ses lèvres le bas de la robe ou le bout des doigts de cette majesté endormie qui pouvait, en se réveillant, le foudroyer de son regard. À cette pensée, tous ces nuages d'enivrement qui avaient égaré son esprit et bouleversé son cerveau se dissipèrent. Il s'arrêta, se retenant au chambranle de la porte, car les jambes lui tremblaient si fort qu'il lui semblait qu'il allait tomber. Mais la méditation ou le sommeil d'André était si profond, car Gilbert ne savait encore bien précisément si la jeune fille dormait ou méditait, qu'elle ne fit pas un seul mouvement, quoiqu'elle eût pu entendre les palpitations du cœur de Gilbert, que celui-ci essayait vainement de comprimer dans sa poitrine. Il resta un moment, debout, haletant. La jeune fille ne bougea point. Elle était si belle ainsi, doucement appuyée sur sa main, avec ses longs cheveux sans poudre, épars sur son cou et sur ses épaules, que cette flamme assoupie, mais non pas éteinte par la terreur, se réveilla. Un nouveau vertige le prit. C'était comme une enivrante folie, c'était comme un dévorant besoin de toucher quelque chose qui la touchait elle-même. Il fit de nouveau un pas vers elle. Le plancher craqua sous son pied mal affermi. À ce bruit, une sueur froide perla au front du jeune homme, mais André ne parut pas l'avoir entendu. « Elle dort !» murmura Gilbert. « Oh, bonheur, elle dort !» Mais Gilbert, au bout de trois pas, s'arrêta de nouveau. Une chose semblait l'épouvanter. C'était l'éclat inaccoutumé de la lampe qui, près de s'éteindre, lançait ses dernières, ses fulgurantes lueurs qui précèdent les ténèbres. Du reste, pas un bruit, pas un souffle dans toute la maison. Le vieux Labrie était couché, sans doute endormi, la lumière de Nicole était éteinte. Allons, dit-il, et il s'avança de nouveau. Chose étrange, le parquet cria de nouveau, et André ne remua point encore. Gilbert s'étonna de cet étrange sommeil, et il s'en effraya presque. Elle dort, répéta-t-il avec cette mobilité de la pensée qui fait chanceler 20 fois en une minute la résolution d'un amant ou d'un lâche, et lâche quiconque n'est plus maître de son cœur. Elle dort, mon Dieu, mais au milieu de toutes ces fiévreuses alternatives de crainte et d'espérance, Gilbert, s'avançant toujours, se trouva à 2 pas d'André. Dès lors, ce fut comme une magie. Il eût voulu fuir, que la fuite lui eût été impossible. Une fois entré dans le cercle d'attraction dont la jeune fille était le centre, il se sentit lié, garrotté, vaincu. Il se laissa tomber sur les genoux. André demeura immobile, muette, on eût dit une statue. Gilbert prit le bas de sa robe et la baisa. Puis il releva la tête, lentement, sans souffle, d'un mouvement égal, ses yeux cherchèrent les yeux d'André. Ils étaient tout grand ouverts et cependant André ne voyait pas. Gilbert ne savait plus que penser, il était anéanti sous le poids de la surprise. Un moment il eut l'effroyable idée qu'elle était morte. Pour s'en assurer, il osa prendre sa main. Elle était tiède et l'artère y battait doucement. Mais la main d'André resta immobile dans la main de Gilbert. Alors Gilbert se figura, enivré sans doute par cette voluptueuse pression, qu'André voyait, qu'elle sentait, qu'elle avait deviné son amour insensé. Il crut, pauvre cœur aveuglé, qu'elle attendait sa visite, que son silence était un consentement, son immobilité une faveur. Alors il souleva la main d'André jusqu'à ses lèvres et y imprima un long et fiévreux baiser. Tout à coup, André frissonna et Gilbert sentit qu'elle le repoussait. « Oh, je suis perdu !» murmura-t-il en abandonnant les mains de la jeune fille et en frappant le parquet de son front. André se leva comme si un ressort l'eût dressé sur ses pieds. Ses yeux ne s'abaissèrent même pas sur le plancher où gisait Gilbert à demi écrasé par la honte et la terreur, Gilbert qui n'avait pas seulement la force d'implorer un pardon sur lequel il ne comptait pas. Mais André, la tête haute, le cou tendu, comme si elle eût été entraînée par une force secrète vers un but invisible, effleura en passant l'épaule de Gilbert, passa outre et commença de s'avancer vers la porte avec une démarche contrainte et pénible. Gilbert, la sentant s'éloigner, se souleva sur une main, se retourna lentement et la suivit d'un regard étonné. André continua son chemin vers la porte, l'ouvrit, franchit l'antichambre et arriva au pied de l'escalier. Gilbert, pâle et tremblant, la suivait en se traînant sur ses genoux. « Oh, pensa-t-il, elle est si indignée qu'elle n'a pas daigné s'en prendre à moi. Elle va trouver le baron, elle va lui raconter ma honteuse folie et l'on va me chasser comme un laquais. » La tête du jeune homme s'égara à cette pensée qu'il quitterait Tavernet, qu'il cesserait de voir celle qui était sa lumière, sa vie, son âme. Le désespoir lui donna du courage. Il se redressa sur ses pieds et s'élança vers André. « Oh, pardon, mademoiselle, au nom du ciel, pardon » murmura-t-il. André parut n'avoir point entendu, mais elle passa outre et n'entra point chez son père. Gilbert respira. André posa le pied sur la première marche de l'escalier, puis sur la seconde. « Oh, mon Dieu !» murmura Gilbert, « où peut-elle donc aller ainsi ? Cet escalier ne conduit qu'à la chambre rouge qu'habite cet étranger et à la mansarde de l'abri. Si c'était pour l'abri, elle appellerait, elle sonnerait. Elle dirait donc, oh, c'est impossible, impossible !» Et Gilbert crispait ses doigts de rage à la seule idée qu'André pouvait aller chez Balsamo. Devant la porte de l'étranger, elle s'arrêta. Une sueur froide coulait au front de Gilbert. Il se cramponna au barreau de l'escalier pour ne pas tomber lui-même, car il avait continué de suivre André. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il croyait deviner, lui semblait monstrueux. La porte de Balsamo était entrebâillée. André la poussa sans y frapper. La lumière qui s'en échappa éclaira ses traits si nobles et si purs et tourbillonna en reflets d'or dans ses yeux tout grand ouverts. Au milieu de la chambre, Gilbert put entrevoir l'étranger, debout, l'œil fixe, le front plissé et la main étendue avec le geste de commandement. Puis la porte se referma. Gilbert sentit ses forces défaillir. Une de ses mains lâcha la rampe, l'autre se porta à son front brûlant. Il tourna sur lui-même comme une roue sortie de l'essieu et tomba étourdi sur la pierre froide de la première marche, l'œil encore attaché sur cette porte maudite par laquelle venait de s'engloutir tout son rêve passé, tout le bonheur présent, toute l'espérance de l'avenir. Balsamo vint au devant de la jeune fille qui était entrée ainsi chez lui sans se déranger de la ligne directe ferme dans sa marche comme la statue du commandeur. Si étrange que fût cette apparition pour tout autre que Balsamo, elle ne parut point surprendre celui-ci. « Je vous ai commandé de venir, dit-il. Dormez-vous ? » André poussa un soupir, mais ne répondit point. Balsamo s'approcha de la jeune fille et la chargea d'une plus grande quantité de fluide. « Je veux que vous parliez, dit-il. » La jeune fille tressaillit. « Avez-vous entendu ce que j'ai dit ? » demanda l'étranger. André fit signe que oui. « Pourquoi ne parlez-vous point alors ?» André porta la main à sa gorge comme pour exprimer que les paroles ne pouvaient point se faire jour. « Bien, asseyez-vous là, » dit Balsamo. Il la prit par la même main que Gilbert venait de baiser sans qu'elle s'en aperçût, et ce seul contact lui donna le même tressaillement que nous lui avons déjà vu éprouver quand le fluide souverain lui était venu d'en haut tout à l'heure. La jeune fille, conduite par Balsamo, fit trois pas à reculons et s'assit dans un fauteuil. « Maintenant, dit-il, voyez-vous ? » Les yeux d'André se dilatèrent comme si elle eût voulu embrasser tous les rayons lumineux répandus dans la chambre par les lueurs divergentes des deux bougies. « Je ne vous dis pas de voir avec les yeux, » continua Balsamo, « voyez avec la poitrine. » Et tirant de dessous sa veste brodée une baguette d'acier, il en posa l'extrémité sur la poitrine palpitante de la jeune fille. Celle-ci bondit comme si un dard de flamme eût traversé sa chair et pénétré jusqu'à son cœur. Ses yeux se fermèrent aussitôt. « Ah bien, dit Balsamo, vous commencez à voir, n'est-ce pas ? » Elle fit un signe de tête affirmatif. « Et vous allez parler, n'est-ce pas ? » « Oui, répondit André. » Mais en même temps, elle porta la main à son front avec un geste d'indicible douleur. « Qu'avez-vous ? » demanda Balsamo. « Oh, je souffre. »« Pourquoi souffrez-vous ? » « Parce que vous me forcez de voir et de parler. » Balsamo leva deux ou trois fois les mains au-dessus du front d'André et sembla écarter une portion du fluide prêt à le faire éclater. « Souffrez-vous encore ? » demanda-t-il. « Moins, répondit la jeune fille. Bien, alors regardez où vous êtes. » Les yeux d'André restèrent fermés, mais sa figure s'assombrit et parut exprimer le plus vif étonnement. « Dans la chambre rouge, » murmura-t-elle. « Avec qui ? » ?»« Avec vous, » continua-t-elle en tressaillant. « Qu'avez-vous ? » ?»« J'ai peur, j'ai honte. » »« De quoi ne sommes-nous pas sympathiquement unis ?»«
Si fait. »
« Ne savez-vous pas que je ne vous fais venir qu'avec des intentions pures ?»«
Ah oui, c'est vrai, dit-elle,
et que je vous respecte à l'égal d'une sœur ?»«
Oui, je le sais. »
Et sa figure se rasséréna, puis se troubla de nouveau.
« Vous ne me dites pas tout, » continua Balsamo.
« Vous ne me pardonnez pas entièrement. »
« C'est que je vois que si vous ne me voulez pas de mal à moi, vous en voulez peut-être à d'autres. »
« C'est possible, continua Balsamo, mais ne vous occupez point de cela, » ajouta-t-il avec le ton du commandement. André reprit son visage habituel. « Tout le monde dort-il dans la maison ?»«
Je ne sais pas, » dit-elle.
« Alors, regardez. »
« De quel côté voulez-vous que je regarde ?»«
Voyons, du côté de votre père d'abord. Où est-il ? » ?»«
Dans sa chambre. » »«
Que fait-il ? » ?»«
Il est couché. » »«
Dort-il ? »
Non, il lit.
Que lit-il ?
Un de ces mauvais livres qu'il veut toujours me faire lire.
Et vous ne lisez pas ?
Non, dit-elle.
Bien, nous sommes donc tranquilles de ce côté. Regardez du côté de Nicole, dans sa chambre.
Il n'y a point de lumière dans sa chambre.
Avez-vous besoin de lumière pour y voir ?
Non, si vous leur donnez.
Voyez, je le veux.
Ah, je la vois.
« Eh bien ? »
Elle est à moitié vêtue, elle pousse doucement la porte de sa chambre, elle descend l'escalier. Bien, où va-t-elle? Elle s'arrête à la porte de la cour, elle se cache derrière cette porte, elle guette, elle attend. Balsamo sourit. Est-ce vous, dit-elle, qu'elle guette et qu'elle attend? Non. Eh bien, voilà le principal. Quand une jeune fille est libre de son père et de sa femme de chambre, elle n'a plus rien à craindre, à moins que... Non, dit-elle. Ah, vous répondez à ma pensée. Je la vois. Ainsi, vous n'aimez personne. Moi, dit dédaigneusement la jeune fille. Et sans doute, vous pourriez aimer quelqu'un, ce me semble. On ne sort pas du couvent pour vivre dans la réclusion, et l'on donne la liberté au cœur en même temps qu'au corps. André secoua la tête. Mon cœur est libre, dit-elle tristement. Et une telle expression de candeur et de modestie virginale embellit ses traits que Balsamo, radieux, murmura. Un lys, une pupille, une voyante. Et il joignit les mains en signe de joie et de remerciement. Puis, revenant à André, « Mais si vous n'aimez pas, continua-t-il, vous êtes aimé, sans doute. »« Je ne sais pas, dit la jeune fille avec douceur. »« Comment vous ne savez pas, répondit Balsamo assez rudement. « Cherchez, quand j'interroge, c'est pour avoir une réponse. » Et il toucha une seconde fois la poitrine de la jeune fille du bout de sa baguette d'acier. La jeune fille tressaillit encore, mais sous l'impression d'une douleur visiblement moins vive que la première. « Oui, oui, je vois, dit-elle, ménagez-moi, car vous me tueriez. Que voyez-vous ? » ?»« Oh, c'est impossible, répondit André. Que voyez-vous donc ? » ?»« Un jeune homme qui, depuis mon retour du couvent, me suit, m'épie, me couvre des yeux, mais toujours caché. » »« Et quel est ce jeune homme ? » ?»« Je ne vois pas son visage, mais seulement son habit, presque l'habit d'un ouvrier. Où est-il ? » Au bas de l'escalier, il souffre, il pleure. Pourquoi ne voyez-vous pas son visage? C'est qu'il le tient caché dans ses mains. Voyez à travers ses mains. André parut faire un effort. Gilbert, s'écria-t-elle, oh, je disais bien que c'était impossible. Et pourquoi impossible? Parce qu'il n'oserait pas m'aimer, répondit la jeune fille avec l'expression d'un suprême dédain. Balsamo sourit en homme qui connaît l'homme et qui sait qu'il n'y a pas de distance que le cœur ne franchisse, cette distance fût-elle un abîme. Et que fait-il au bas de l'escalier? Attendez, il écarte les mains de son front, il se cramponne à la rampe, il se soulève, il monte, où monte-t-il? Ici, c'est inutile, il n'osera entrer. Pourquoi n'osera-t-il entrer? Parce qu'il a peur, dit André, avec un sourire de mépris. Mais il écoutera. Sans doute, il approche son oreille de la porte. Il écoute. Il vous gêne alors? Oui, parce qu'il peut entendre ce que je dis. Et il est homme à en abuser, même envers vous qu'il aime. Oui, dans un mouvement de colère ou de jalousie. Oh oui, dans un de ces moments-là, il est capable de tout. « Alors, débarrassons-nous de lui, » dit Balsamo, et il marcha bruyamment vers la porte. Sans doute, l'heure de la bravoure n'était pas encore venue pour Gilbert, car, au bruit des pas de Balsamo, craignant d'être surpris, il s'élança à cheval sur la rampe et se laissa glisser jusqu'à terre. André poussa un petit cri d'épouvante. « Cessez de regarder de ce côté, » dit Balsamo en revenant vers André. « Ce sont des choses de peu d'importance que les amours vulgaires. » Parlez-moi du baron de Tavernet, voulez-vous? Je veux tout ce que vous voulez, dit André avec un soupir. Il est donc bien pauvre, le baron. Très pauvre. Trop pauvre pour vous donner aucune distraction. Aucune. Alors vous vous ennuyez dans ce château? Mortellement. Vous avez de l'ambition, peut-être? Non. Vous aimez votre père? « Oui, » dit la jeune fille, presque avec hésitation. Cependant, il me sembla, hier au soir, qu'il y avait un nuage sur cet amour filial, reprit Balsamo en souriant. « Je lui en veux d'avoir follement dépensé toute la fortune de ma mère, de sorte que le pauvre Maison Rouge languit en garnison et ne peut plus porter dignement le nom de notre famille. Qu'est-ce que Maison Rouge ? Mon frère Philippe.
Pourquoi l'appelez-vous Maison Rouge ?
Parce que c'est le nom, ou plutôt parce que c'était le nom d'un château à nous, et que les aînés de la famille portaient ce nom jusqu'à la mort de leur père. Alors il s'appelle Tavernet.
Et vous aimez votre frère ?
Oh oui, beaucoup, beaucoup.
Plus que toute chose ?
Plus que toute chose.
Et pourquoi l'aimez-vous avec cette passion quand vous aimez votre père si modérément ?
Parce qu'il est un noble cœur, lui, qui donnerait sa vie pour moi.
Tandis que votre père, André se tut.
Vous ne répondez pas ?
Je ne veux pas répondre.
Sans doute Balsamo ne jugea pas à propos de forcer la volonté de la jeune fille.
Peut-être d'ailleurs savait-il déjà sur le baron tout ce qu'il voulait savoir.
Et où est en ce moment le chevalier de Maison Rouge ?
Vous me demandez où est Philippe ?
Oui, il est en garnison à Strasbourg.
Le voyez-vous en ce moment ?
Où cela ?
À Strasbourg.
Je ne le vois pas.
Connaissez-vous la ville ?
Non, non, je la connais, moi. Cherchons ensemble, voulez-vous ?
Je veux bien.
Est-il au spectacle ?
Non.
Est-il au café de la place avec les autres officiers ?
Non.
Est-il rentré chez lui, dans sa chambre ?
Je veux que vous voyiez la chambre de votre frère.
Je ne vois rien. Je crois qu'il n'est plus à Strasbourg.
Connaissez-vous la route ?
Non.
Qu'importe, je la connais, moi. Suivons-la.
Est-il à Saverne ?
Non.
Est-il à Sarrebruck ?
Non.
Est-il à Nancy ?
Non.
Attendez, attendez.
La jeune fille se recueillit. Son cœur battait à briser sa poitrine.
Je vois, dit-elle avec une joie éclatante. Oh, c'est Philippe, quel bonheur !
Qu'y a-t-il ?
Cher Philippe, continua André, dont les yeux étincelaient de joie.
Où est-il ?
Il traverse à cheval une ville que je connais parfaitement.
Laquelle ?
Nancy, Nancy, celle où j'ai été au couvent.
Êtes-vous sûr que ce soit lui ?
Oh oui, les flambeaux dont il est entouré éclairent son visage.
Des flambeaux ? Dit Balsamo avec surprise. Pourquoi faire ces flambeaux ?
Il est à cheval, à la portière d'un beau carrosse doré.
Ah ah ! Fit Balsamo qui paraissait comprendre. Qu'y a-t-il dans ce carrosse ?
Une jeune femme, oh, qu'elle est majestueuse, qu'elle est gracieuse, qu'elle est belle.
Oh, c'est étrange, il me semble l'avoir déjà vue.
Non, non, je me trompais, c'est Nicole qui lui ressemble.
Nicole ressemble à cette jeune femme si fière, si majestueuse, si belle.
Oui, oui, comme le jasmin ressemble au lys.
Voyons, que se passe-t-il à Nancy en ce moment ?
La jeune femme se penche vers la portière et fait signe à Philippe de s'approcher. Il obéit, il approche, il se découvre respectueusement.
Pouvez-vous entendre ce qu'ils vont dire ?
J'écouterai, dit André en arrêtant Balsamo d'un geste comme si elle eût voulu qu'aucun bruit ne détournât son attention.
J'entends, j'entends, murmura-t-elle.
Que dit la jeune femme ?
Elle lui ordonne, avec un doux sourire, de faire presser la marche des chevaux.
Elle dit qu'il faut que l'escorte soit prête le lendemain à 6 heures du matin, parce qu'elle veut s'arrêter dans la journée.
Où cela ?
C'est ce que demande mon frère.
Oh mon Dieu, c'est à Tavernet qu'elle veut s'arrêter.
Elle veut voir mon père.
Oh, une si grande princesse s'arrêter dans une si pauvre maison. Comment ferons-nous sans argenterie, presque sans linge ?
Rassurez-vous, nous pourvoirons à cela.
Ah, merci, merci.
Et la jeune fille, qui s'était soulevée à demi, retomba épuisée dans son fauteuil en poussant un profond soupir.
Aussitôt, Balsamo s'approcha d'elle et, changeant par des passes magnétiques la direction des courants d'électricité, il rendit la tranquillité du sommeil à ce beau corps qui semblait brisé, à cette tête alourdie qui retombait sur sa poitrine haletante.
André sembla retomber alors dans un repos complet et réparateur.
« Reprends des forces, lui dit Balsamo, en la regardant avec une sombre extase. Tout à l'heure, j'aurai encore besoin de toute ta lucidité. »
« Oh, science » continua-t-il avec le caractère de la plus croyante exaltation,
« toi seul ne te trompe pas, c'est donc à toi seul que l'homme doit tout sacrifier.
Cette femme est bien belle, oh mon Dieu, cet ange est bien pur, et tu le sais, toi qui crées les anges et les femmes. Mais pour moi, que vaut en ce moment la beauté ? que vaut l'innocence, un simple renseignement que la beauté et l'innocence seules peuvent me donner. Meurt la créature si belle, si pure, si parfaite qu'elle soit, pourvu que sa bouche parle. Meurt les délices du monde entier, amour, passion, extase, pourvu que je puisse toujours marcher d'un pas sûr et éclairé. Et maintenant, jeune fille, maintenant que par le pouvoir de ma volonté, quelques secondes de sommeil t'ont rendu autant de force que si tu venais de dormir 20 ans, maintenant réveille-toi, ou plutôt replonge-toi dans ton clairvoyant sommeil. J'ai encore besoin que tu parles. Cette fois seulement, tu vas parler pour moi. » Et Balsamo, étendant de nouveau les mains vers André, força la jeune fille à se redresser sous son souffle tout-puissant. Puis, lorsqu'il la vit préparée et soumise, il tira de son portefeuille un papier plié en 4 dans lequel était renfermée une boucle de cheveux d'un noir chaud comme la résine. Les parfums dont elle était imprégnée avaient rendu le papier diaphane. Balsamo mit la boucle de cheveux dans la main d'André. « Voyez, » demanda-t-il.
« Encore ? » dit la jeune fille avec angoisse. « Oh non, non, laissez-moi tranquille, je souffre trop. Oh mon Dieu, tout à l'heure, je me sentais si bien. »«
Voyez, » répondit Balsamo, en posant impitoyablement le bout de la verge d'acier sur la poitrine de la jeune fille. André se tordit les mains. Elle essaya de se soustraire à la tyrannie de l'expérimentateur. L'écume vint à ses lèvres comme autrefois à celle de la pitié assise sur le trépied sacré.
« Oh, je vois !» cria-t-elle avec le désespoir de la volonté vaincue.
« Que voyez-vous ?
Une femme !»
Ah, murmura Balsamo avec une joie sauvage, la science n'est donc pas un vain mot comme la vertu. Mesmer a vaincu Brutus. Voyons, dépeignez-moi cette femme, afin que je sache si vous avez bien vu.
Brune, grande, des yeux bleus, des cheveux noirs, des bras nerveux, que fait-elle ?
Elle court, elle vole, elle semble emportée par un cheval magnifique, couvert de sueur.
De quel côté va-t-elle ?
« par là, » dit la jeune fille en montrant l'ouest.
« Sur la route ?»«
Oui. »«
De Chalon ?»«
Oui. »«
C'est bien, » fit Balsamo. « Elle suit la route que je dois suivre. Elle va à Paris comme j'y vais. C'est bien. Je la retrouverai à Paris. »«
Reposez-vous maintenant, » dit-il à André, en lui reprenant la boucle qu'elle n'avait point lâchée.
Les bras d'André retombèrent immobiles le long de son corps.
« Maintenant, » dit Balsamo, « retournez au clavecin. »
André fit un pas vers la porte, mais ses jambes, brisées par une inexprimable fatigue, refusèrent de la porter. Elle chancela.
« Reprenez de la force et continuez, » reprit Balsamo, en l'enveloppant d'une nouvelle émission de fluide.
André imita le généreux coursier qui se roidit pour accomplir la volonté de son maître. Cette volonté fut-elle injuste ? Elle marcha.
Balsamo rouvrit sa porte et André, toujours endormi, descendit lentement l'escalier.